Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous et bienvenue dans Vos animaux. Alors cette semaine, vos animaux fait la part belle au chat. Le chat est l'animal préféré des Français, alors aujourd'hui, on va vous aider à trouver le chat qui vous ressemble. Chat de race, chat de gouttière, ils sont tous absolument fascinants et ont de quoi nous séduire à l'image de la petite Tam. Je l'appelle Tam, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Otamara. C'est une magnifique chatte ragdoll. Elle est âgée d'un an. Elle est accompagnée de son éleveuse. Et puis surtout, elle est accompagnée d'une autre magnifique petite chatte. Celle-ci a 5 mois. Elle s'appelle Yumi et c'est une bengale. Elle aussi accompagnée de son éleveuse. Mesdames, merci beaucoup d'être là, d'être venues avec vos animaux magnifiques. Vous allez tout nous expliquer sur ces deux races de chats et vous allez donner des conseils très pratiques à nos auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler au standard 0826 300 300 si vous souhaitez témoigner sur votre vie avec votre chat ou nous poser des questions sur ces deux races de chats, le bengal et le ragdoll, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et puis nous ferons connaissance avec un bébé gorille, elle a tout juste quelques semaines. Ce sera pour nous une très belle occasion de parler des gorilles des plaines. Enfin, nous verrons comment la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, se prépare à l'arrivée de cette nouvelle marée noire, une catastrophe écologique en perspective. On verra tout cela tout à l'heure. Merci d'écouter vos animaux 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio. Tout de suite, le journal des animaux avec Gaspard.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et Gaspard, on commence avec une belle nouvelle. C'est un tout nouveau refuge, c'est même un zoo-refuge qui va accueillir des animaux de cirque et de laboratoire.
Et oui, 11 singes de laboratoire de recherche médicale ont désormais le droit à une retraite paisible au zoo-refuge La Tanière, près de Chartres, destiné à une vie tragique. Ces primates sont pour le moment en zone de quarantaine, comme le stipule la législation, dans un bâtiment adaptés aux primates, ils rejoindront ensuite de grandes volières à l'air libre où ils tenteront d'apprendre à vivre presque normalement leur vie d'animaux en captivité.
Effectivement, et ce nouveau zoo-refuge est situé à Nogent-le-Fay précisément. Il accueille déjà plusieurs centaines d'animaux. Il sera ouvert au public uniquement en 2020. Pour l'instant, il est encore en cours de construction, mais les premiers pensionnaires sont déjà arrivés. À découvrir absolument. Enfin, on termine avec notre partenaire Animalis qui est signé un incroyable partenariat avec Star Wars.
Et oui, c'est une première mondiale, Natacha. Depuis fin février, l'enseigne propose la première gamme de jouets inspirée de la saga, une collection où vous trouverez des déguisements, des jouets et tout un tas d'accessoires qui raviront la fan qui sommeille en vous, mais aussi et surtout votre animal, de Dark Vador à Maître Yoda. La gamme large gamme vous permettra de choisir de quel côté de la force votre animal mal penchera, Natacha.
Écoutez, je pense que ça amuserait beaucoup Yumi et la petite Tam qui sont toutes les deux à nos côtés aujourd'hui. Allez, c'est la première partie de cette émission, Vos animaux et vous, et on va parler des chats.
Sud Radio, Vos animaux et vous.
Et j'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui deux éleveuses de chats. Olivia Augereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveuse de ragdoll. Vous êtes venue, je le disais, en compagnie de Tam, une jeune chatte qui est âgée d'un an, qui est tranquille là pour le moment, sur vos genoux. Et puis nous avons également le plaisir de recevoir Nathalie Letio. Nathalie, vous êtes accompagnée d'une espèce de petite bombe. Elle n'a que 5 mois. C'est une chatte bengale qui s'appelle Yumi. Magnifique pelage. C'est quoi sa couleur?
C'est une Silmink.
Elle est absolument curieuse, intrépide et mignonne à la fois. Alors, l'objectif ce matin, c'est d'essayer de conseiller nos auditeurs sur le choix du chat qui leur ressemble le plus. Les races de chats sont nombreuses. Il y a aussi, bien sûr, les chats de gouttière qu'il ne faut pas oublier, qui sont certainement les plus présents dans nos foyers français, qui font également d'adorables compagnons. Mais là, on a deux races très différentes, deux races aussi belles l'une que l'autre, avec des tempéraments distincts. Donc, on va essayer de découvrir un peu mieux ces deux chats. On va commencer par Yumi, cette petite bengale qui n'a qu'une seule envie, là, je crois, c'est de jouer. C'est tout le temps comme ça, les bengales, c'est très, très joueur.
Ça reste des chats qui sont très actifs, qui demandent aussi beaucoup d'attention et on peut les sortir en laisse également. Et effectivement, ils sont très, très actifs. Ils demandent énormément de jeux. Ils jouent énormément avec l'eau aussi.
Oui, alors ça, c'est quand même une caractéristique du Bengale, c'est qu'ils adorent l'eau. Ça peut arriver dans d'autres races de chats, mais c'est vrai que chez le Bengale, c'est quand même assez spécifique de cette race. Pourquoi est-ce qu'ils aiment autant l'eau, les Bengales, hein ?
Je pense que ça vient de l'ALC, donc du léopard d'Asie, qui aime déjà l'eau à la base. Et c'est vrai que les Bengales, ils prennent leur douche avec vous. Dès qu'on entend un robinet ouvert, ils sautent sur le robinet pour aller boire. Ils aiment beaucoup boire à la fontaine aussi. Régulièrement, les gamelles d'eau sont par terre. C'est une histoire d'amour, l'eau et le Bengale.
Vous avez toujours élevé des Bengales ou vous avez aussi élevé d'autres races de chats ?
J'ai commencé par le Sacré de Birmanie.
Oui, très différent pour le coup.
Très différent pour le coup. En effet, ce n'est pas du tout les mêmes caractères. Le Sacré de Birmanie reste assez plan-plan, un chat de salon. Et le Bengale qui est extrêmement vif, très actif. Qui me ressemblait beaucoup plus en fait. Et j'ai eu en fait en garde l'espace de quelques jours une Bengale et j'en suis tombée amoureuse et c'est comme ça que j'ai acheté ma première.
Et aujourd'hui, j'ai continué. Vous avez plusieurs Bengales chez vous ?
Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais du Bengale et effectivement, j'en ai 7 en reproduction.
7 Bengales à la maison, mais alors ça doit être incroyable
sportif.
Votre maison, ça doit être très sportif. Plus très les sportif. Enfants, puisque vous me disiez tout à l'heure qu'en plus vous avez
4 enfants.
4 enfants plus 7 Bengales. Je n'ose pas imaginer la vie à la
c'est
maison. Si vous voulez être tranquille le soir, c'est raté. Alors, Olivia, vous êtes donc éleveuse de ragdoll. Je ne sais pas si Tamara est représentative de sa race, mais quand on voit Tamara, elle est tranquille sur vos genoux. Oh Tamara, puisque c'est son nom, elle est née l'année des Hauts, mais je raccourcis, hein, on dit Tam, pour faire simple. On voit que vraiment, c'est une chatte paisible.
Alors, le ragdoll est un chat qui est très paisible. C'est un chat de salon, qui peut être aussi joueur, mais qui a la particularité d'être très câlin, très proche de l'homme, qui n'aime pas la solitude. Donc ça ne correspondra pas à une famille qui est absente de 6h du matin à 21h parce que le chat sera malheureux.
Oui.
Mais c'est un chat extrêmement pot de colle.
C'est ce que j'allais vous dire.
Toujours avec
Depuis
vous.
Que vous êtes rentrée dans le studio, on voit que Tam ne vous a pas quitté des yeux. Elle est contre vous. À l'inverse totalement de Yumi qui, elle, s'affranchit de sa maîtresse et alors se balade allègrement un petit peu partout.
Tout à fait.
Donc ils sont tous comme ça, ce sont vraiment des chats très proches de l'humain.
Ce sont tous des chats très proches de l'humain, c'est vraiment leur caractéristique, hein, puisqu'on les appelle à l'origine des poupées de chiffon.
Oui.
Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus dynamiques que ça, et à la maison, comme je
vous disais. Oui, c'est pas très flatteur, comme
non,
poupées de chiffon.
Non, pas du tout, et c'est pas tout à fait vrai. J'ai aussi des Maine Coons à la maison, et ils se font des parties de jeu endiablées, donc ils sont également très joueurs. Mais par contre, il est vrai qu'ils aiment les câlins, ils viennent sur vous, ils viennent se coller à vous. Ce qui n'est pas toujours le cas des ragdolls, selon l'individualité du chat.
Et par rapport à la présence d'enfants au sein d'un foyer, comment ça se passe avec un ragdoll ? Est-ce que c'est un chat qui est adapté à une vie en famille ?
Alors, le ragdoll est absolument adapté aux enfants et même aux jeunes enfants parce qu'ils sont très doux. Ils mettent rarement les griffes.
Ouais.
C'est un chat qui est vraiment très calme et qui accepte les enfants. Alors évidemment, si vous avez un enfant qui va lui tirer la queue et les oreilles,
oui,
comme
non,
tous
mais
les
ça,
animaux...
Voilà. Il faut quand même prendre des précautions. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des
Exactement.
Animaux et on apprend à les respecter, bien évidemment.
Tout à fait. Mais sinon, ils sont extrêmement câlins, adorent la présence des enfants, jouer avec eux, se coller à eux, venir sur leur lit ou sur leur cahier lorsqu'ils font leurs devoirs. Ça s'adapte tout à fait aux enfants, même aux jeunes enfants.
Joël a composé le 0826-300-300 et veut intervenir. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Bonjour Joël.
Voilà, je vous ai eu plusieurs fois au téléphone déjà par rapport à une petite chatte que j'avais perdue.
Oui.
Hein, que j'ai toujours pas retrouvée d'ailleurs, une petite chatte Isabelle. Moi c'était par rapport au caractère des chats, parce que moi j'ai souvent eu des chats abandonnés, enfin qui sont nés, j'habite à la campagne, qui sont nés dans les bâtiments,
oui.
Que j'ai recueillis, et bon j'en ai eu un particulièrement, on dit que les roues sont très aimables, mais celui-là était un peu particulier, des fois il était même agressif.
Je pense qu'il est difficile, Joël, de faire un systématisme entre le tempérament du chat et sa couleur. On dit aussi assez souvent que les femelles écailles de tortue ont un tempérament peut-être un peu plus vif que d'autres. Mais vous savez, ce sont des individus et ils ont chacun leur caractère, comme nous, les êtres humains. Et puis leur caractère est aussi, bien sûr, lié à ce qu'ils ont pu connaître dans leur vie, ce qu'ils ont pu découvrir, les bons et les mauvais côtés de la vie qui a été la leur avant le contact avec leur famille. Donc voilà, on ne peut pas dire que les roues sont de moins bon tempérament que les autres.
Ben c'est-à-dire que bon, là, lui, je l'avais recueilli dans le trou d'un mur. Je pense que sa maman l'avait...
Peut-être qu'il a été sevré très très tôt et trop tôt, c'est possible.
Voilà.
On en parlera justement avec nos deux éleveuses tout à l'heure. Mais c'est vrai que laisser les chatons jusqu'à l'âge normal du sevrage, qui est environ à 8 semaines, c'est absolument indispensable parce que la maman chat va donner l'éducation aux chatons. Et si ça, ce n'est pas fait, soit parce que l'éleveur procède à un sevrage précoce qui est vraiment très préjudiciable pour les chats, ou alors parce qu'une chatte met bas dans la nature et que pour X raisons, elle se sépare de ses chatons, eh bien, vous avez des jeunes chats qui n'ont pas appris les codes indispensables à la vie future. Et alors, ce sont ensuite les humains qui essaient de pallier un petit peu à ce manque et de récupérer le retard. Mais parfois, on n'y arrive pas. En tout cas, merci beaucoup Joël pour votre appel et pour votre témoignage. Je vois que Yumi s'amuse beaucoup avec le micro de Sud Radio. On va la retrouver dans quelques minutes. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et aujourd'hui dans Vos Animaux, on met les chats à l'honneur en compagnie de deux beaux représentantes, même deux belles ambassadrices, des félins. Nous avons Otamara, qui est une magnifique chatte ragdoll d'un an, et puis la tout aussi magnifique Yumi, qui est une petite bengale de 5 mois. Alors Yumi est partie explorer le studio de Sud Radio pour tout vous dire. Quant à Tam, elle est plus tranquille sur les genoux de sa maîtresse. Revenons au bengale, Nathalie, vous qui êtes éleveuse de bengale. Alors on voit bien le tempérament si on observe Yumi, mais décrivez-nous un petit peu le tempérament de ce chat, parce que l'idée c'est de conseiller au mieux nos auditeurs pour qu'ils trouvent le chat qui leur ressemble.
Alors c'est un chat qui reste très actif, et donc si vous cherchez un chat qui est assez plan-plan, clairement le bengale ne sera pas pour une famille où on cherche du zen. Comme par exemple Otamara, qui est plus
tranquille, chat de canapé. Voilà, là on a un peu les deux extrêmes
c'est
dans les
deux
tempéraments.
Extrêmes, effectivement.
Le ragdoll tranquille et le bengal
qui est assez actif.
Hyperactif.
Hyperactif, cela dit, extrêmement câlin.
Oui.
Il est très très proche de son maître, voire carrément, c'est l'hyper-attachement.
Donc ça, c'est un point commun entre ces deux races.
C'est exact. C'est un chat qui est très, très câlin. Pour certains, effectivement, il y en a qui peuvent être un petit peu plus timides. Mais en général, avec leur maître, ils sont...
Visiblement, Yumi ne fait pas partie du tout de cette catégorie.
Non, je ne fais pas partie de cette catégorie. La sociabilisation avec l'humain, comme avec les congénères au niveau du bengale, est très, très importante. Et donc, il faut beaucoup la travailler pour pas qu'il soit justement asocial.
Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à des gens qui souhaitent acquérir un bengale? Comment on s'y prend? Quelles questions se poser déjà avant de faire la démarche?
Alors, se poser déjà la première bonne question, c'est savoir si on souhaite un chat qui est très actif, qui demande beaucoup de temps, qui demande du temps pour le jeu, du temps pour les câlins. Donc, c'est vrai que si on a effectivement une journée à rallonge, le bengale va pas forcément. C'est pas l'idéal. Voilà, ça demande quand même beaucoup d'attention, au même titre effectivement que tous les chats, on va dire.
Bon, grosso modo, quand même tous les animaux demandent de l'attention.
De l'attention, mais lui en particulier.
Voilà,
il va même pour certains demander à sortir.
Oui.
Donc sortir en laisse, la promenade de tous les jours quand on commence.
Oui.
Faut pas l'oublier.
D'accord.
Parce que le bengale va gentiment vous le rappeler.
Et alors, quand on a un jardin, est-ce que c'est un chat qui revient facilement, ou est-ce qu'au contraire, il aime bien un peu explorer les alentours?
Alors, il aime beaucoup
explorer
les alentours,
et
il va étendre son territoire énormément, de plus en plus d'ailleurs. Donc, on va plus privilégier un enclos qui est fermé.
D'accord.
Voilà.
Sinon, on risque de le perdre.
Voilà, vous risquez de le perdre. En plus de ça, si effectivement, il est très gentil, adorable, qu'il vous fait des câlins, on prend le chat et on part avec.
Bien sûr.
Souvent. Ouais. Ça arrive très souvent.
Ça arrive très, très souvent.
Donc,
en plus, ils sont magnifiques, donc c'est sûr que.
C'est tentant
dans l'esprit de certaines personnes, évidemment, mais quand on aime les animaux, on sait que c'est un drame absolu
Faire
voler son animal. et pour le maître et pour l'animal très souvent. Ça, c'est en termes de tempérament. Et maintenant, en termes d'entretien, je sais qu'il faut être vigilant, notamment sur l'alimentation.
Sur le bengal, c'est extrêmement important. Ça reste un animal hybride et donc, de fait, un des intestins assez fragiles. Donc on va...
Rappelez-nous peut-être pourquoi vous dites que c'est un animal hybride.
Alors, à la base...
De manière simple.
Le bengal a été... vient d'une hybridation entre un léopard d'Asie et un chat domestique. De là, donc est sorti le bengal et effectivement, sur certains bengals, on a tous les aspects, caractères aussi qu'on peut retrouver chez la LC, parfois très timide, pas forcément sauvage, mais très timide et un petit peu sur la retenue.
D'accord.
Du fait aussi qu'ils aiment beaucoup l'eau, qu'ils soient très actifs et au niveau des intestins, ça reste un carnivore. D'accord. Et donc, on ne va pas mettre de céréales. Et toute l'alimentation va tourner surtout
donc,
sur du sans
très
céréales.
Donc, vigilant sur très ce qu'on vigilant. Leur donne à manger. Sinon, c'est souci de santé assuré.
C'est assuré et vous allez même le voir sur le poil. Mm-hmm. Le poil va être très terne. Un bengal, c'est un poil qui est très brillant et donc très soyeux. Et dès que l'alimentation elle est mauvaise, ça se voit tout de suite. Il perd ses poils. Le poil est terne. Il n'y a plus de glitter.
On repart au standard et après, je vais poser exactement la même question à Olivia pour découvrir cette version ragdoll, on va dire.
Et c'est Mélodie qui s'interroge ce matin sur les chats. Bonjour Mélodie.
Bonjour.
Bonjour Mélodie, merci beaucoup d'être avec nous. Vous souhaitiez réagir par rapport au chat, animal préféré des Français. De vous aussi, j'imagine, Mélodie.
Oui, oui.
Vous êtes propriétaire de chats?
Oui, deux.
Deux chats, très bien. Quel témoignage vous souhaitiez nous apporter?
Le caractère d'un chat trop croisé.
Pardon? On ne vous a pas bien entendu.
Le caractère d'un croisé chartreux.
D'accord. Vous avez un croisé chartreux. Très bien.
Oui.
Et comment ça se passe, la vie avec lui? Comment s'appelle-t-il, votre chat?
Grisette.
Grisette. Donc, c'est une chatte. Comment ça se passe, la vie avec Grisette?
Très bien. Elle mange sa faim, elle adore les sacs, les cartons. Un vrai chaton, mais bon. C'est pas un chaton.
Très bien, merci infiniment Mélodie d'avoir appelé le standard de Sud Radio pour nous apporter votre témoignage. Olivia, donc vous êtes éleveuse de ragdoll. Je vais vous donc poser la même question. Quelle question justement faut-il se poser avant d'acquérir un ragdoll si on est séduit par cette race? Parce qu'au départ, on est peut-être séduit tout simplement par la beauté physique de ce chat. Mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même.
C'est plus compliqué que ça parce qu'un ragdoll demande de l'entretien. Il faut le brosser au moins une fois par semaine au minimum.
Oui, parce qu'il a un pelage long, épais.
Il a un pelage mi-long, épais, qui peut facilement faire des nœuds. Donc il faut éviter évidemment de devoir le tondre. Donc il faut
bien sûr
pouvoir le brosser une fois par semaine, voire le laver de temps en temps.
Ils acceptent bien les séances de brossage et le bain alors en plus?
Alors ça dépend complètement de l'éleveur. Si l'éleveur a fait le travail au préalable lorsqu'ils étaient bébés, il n'y a aucun problème pour leur donner la douche, les sécher au sèche-cheveux, les brosser. C'est un travail que doit le faire l'éleveur. Au préalable. Pareil pour le coupage de griffes, c'est exactement la même chose.
Vous, c'est ce que vous faites avec vos chats? À partir de quel âge vous leur apprenez comme ça à être brossés, à être lavés?
Le lavage, c'est pas avant 2 mois.
Oui.
Brosser, c'est vers un mois et demi à peu près, très régulièrement, mais tout en leur parlant, en jouant et en les câlinant.
Il faut que ce soit un moment plaisant.
C'est un moment
pour
plaisir.
Eux.
Ça ne doit pas être un moment ni de torture, ni de. Ce soit un problème pour eux. Il faut vraiment que reste un moment de plaisir. Pour le chat et pour le propriétaire, parce que sinon, forcément, ça va mal se passer.
Et comment savoir, quand on achète un chat chez un éleveur, que l'éleveur a bien fait tout ça? C'est pas évident, parce qu'il peut vous dire, mes chats, je m'en occupe très bien. Et puis au final, vous vous retrouvez avec un petit fauve dans la maison.
Il faut déjà aller sur place, ça c'est impératif. Voir si le chaton est encore avec sa mère.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui séparent les chatons de la mère, ce qui est une grave erreur. Mm-hmm. Il faut les laisser jusqu'à la fin parce qu'elles ont plein de choses à leur apprendre.
Bien sûr.
Donc vérifier que la maman est toujours avec eux, vérifier le comportement des chatons, dans quel environnement ils
vivent. Quand vous dites vérifier le comportement des chatons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit vérifier dans ce comportement?
C'est-à-dire si vous faites tomber vos clés, par exemple, par mégarde, est-ce qu'ils vont partir en courant dans l'autre sens? Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des jouets au sol avec lesquels ils peuvent jouer? Un griffoir ou des choses comme ça, parce que parfois vous allez chez un éleveur et il n'y a rien. du tout. Et les chats, les chatons,
ça, c'est pas bon pour leur développement.
C'est pas bon pour leur développement. Et voir également comment ils vont se comporter par rapport à vous. Est-ce qu'ils vont se laisser approcher? Est-ce qu'ils vont partir dans l'autre sens? Qu'est-ce que l'éleveur va vous raconter sur le caractère des chats?
Oui.
Un bon éleveur, il connaît ses chatons. Donc, il va savoir vous dire si un chaton est plutôt timide ou un chaton qui est plutôt espiègle ou un chaton qui est plutôt tout fou. Ce sont des choses comme ça. Si l'éleveur...
Donc, ça veut dire que l'éleveur doit vraiment accompagner la personne qui vient à sa rencontre dans le choix de l'animal.
Tout à fait.
On ne choisit pas simplement parce que celui-ci ou celui-là a la couleur que l'on aime.
Non, non, non. Le caractère est très important parce qu'en fonction des familles, si la famille souhaite un chat très câlin, tous les chatons, parce qu'ils ont aussi leur individualité propre,
bien sûr,
tous les chatons ne le sont pas forcément. Et donc, notre travail à nous éleveurs, c'est de dire ce chaton-là correspond plus à ce que vous attendez et de les conseiller pour qu'ils puissent avoir le chat qui correspond le plus à ce qu'ils recherchent.
On marque encore une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes, toujours en compagnie de nos deux magnifiques.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, dans Vos Animaux, on a vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission spéciale chat avec deux ambassadrices incroyables. La jolie Yumi, une petite bengale de 5 mois. Et Tamara, Otamara, qui est sur les genoux de sa maîtresse depuis le début de l'émission. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur notre Facebook Live parce que vous verrez comment ça se passe dans le studio avec ces deux chats. Il y a la curieuse et il y a la câline. Voilà. Mais la curieuse est bien sûr tout aussi câline. Alors, Olivia, expliquez-moi un petit peu quels sont aussi les éléments de santé à vérifier. Il y a des maladies qui existent, notamment chez le ragdoll, qu'il faut essayer de vérifier avant de faire l'acquisition d'un chat. Quelles sont-elles?
Alors, avant de faire l'acquisition d'un chat, il faut vérifier que les parents soient bien testés HCM. Ça, c'est normalement obligatoire.
Ça signifie
alors,
quoi,
HCM, c'est tout ce qui est maladie cardiaque.
Oui.
Et moi, je fais aussi la PKD, c'est pas obligatoire, mais ça, c'est pour les maladies rénales.
Oui.
Idéalement, il faut aussi une échographie cardiaque pour vérifier. Et évidemment, FIV-FELV, c'est-à-dire la leucose et le sida du chat.
D'accord. Donc, tout ça, on demande à l'éleveur. Et normalement, si l'éleveur fait bien son travail, il vous répond en toute transparence par rapport à l'état sanitaire de ses animaux.
Il doit vous donner les papiers. Vous devez vérifier les papiers. C'est oui. extrêmement important. Idéalement, c'est également, bien. Avoir l'ADN du chat et, si possible, la filiation pour vérifier que les parents soient bien les bons parents du chaton.
D'accord. C'est vrai qu'il faut y penser. On peut faire confiance, en fait, spontanément. Et puis,
mais il ne faut pas.
Il ne faut pas. Bon, écoutez, au moins, ça a le mérite d'être clair. Pendant la coupure pub, vous nous racontiez quelque chose d'intéressant sur le ragdoll.
Alors, le ragdoll, en fait, il a une particularité, c'est qu'il adore les gratouilles.
Oui.
Et quand vous commencez à le gratter sur le dos, il tombe sur le côté spontanément et se met sur le dos pour avoir des câlins sur le ventre.
D'accord.
Il adore les câlins sur le ventre, donc il peut rester pendant de longues minutes à se faire gratter sur le ventre. Il adore ça.
C'est incroyable qu'elle soit aussi calme dans un environnement comme ça qu'elle ne connaît pas, avec un peu de bruit autour, un autre chat qu'elle ne connaît pas, des lumières.
Alors ça, c'est aussi un travail à faire. Bon, moi, c'est pas moi qui l'ai fait naître, mais je l'ai travaillé beaucoup quand elle est arrivée parce qu'elle n'était pas du tout comme ça. De la sortir, moi, je l'emmène toujours avec moi dans mon sac à dos ventral. Elle est souvent avec moi un peu partout. Voyager également et lui montrer différents environnements pour qu'elle soit le moins stressée possible.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames. On pourrait parler des chats pendant une journée entière, mais malheureusement, nous avons un timing à respecter. Merci de nous avoir amené Yumi et Otamara, vraiment deux chats magnifiques qui sont de parfaits ambassadeurs pour tous les félins.
Merci.
Allez, on va maintenant s'intéresser à la faune sauvage avec la naissance d'un bébé gorille.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et nous avons le plaisir de recevoir maintenant Pierre Tivillon. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors Pierre, vous êtes le directeur et fondateur du zoo de Saint-Martin-la-Plaine. C'est situé près de Saint-Étienne. Et puis je crois que je ne trahis aucun secret en disant que vous êtes un amoureux des gorilles, que vous avez même une particularité, c'est que depuis des années, avec votre épouse Eliane, vous vivez en compagnie de gorilles, notamment en compagnie de Digit. Alors maintenant, elle a sa maison à elle quand même, Digit.
Oui, Digit a 20 ans maintenant, et elle vit toujours près de nous, la nuit dans la même pièce que nous, mais nous avons dû installer une petite cloison en grille parce que, comme je fais de l'apnée du sommeil, je suis obligé d'avoir un masque sur la figure, et elle ne comprenait pas pourquoi je faisais le carnaval tous les soirs. Mais voilà, mais c'est toujours une grande fille qui
donc
est
nos
près
auditeurs
de nous.
Ont bien compris, hein, vous partagez votre vie avec un gorille et vous avez dormi pendant des années dans la même pièce que ce gorille, vous et votre épouse.
Nous vivons toujours dans la même pièce, ouais. Mais là, on a coupé un peu cette pièce en deux. Mais pendant les 18 premières années de sa vie, nous avons souvent partagé le même lit.
Alors Pierre, vous êtes un grand défenseur des animaux. Vous avez notamment monté sur le site de votre zoo un refuge pour animaux de cirque, animaux de laboratoire. Ça s'appelle l'association Tonga. Et puis vous êtes, je le disais, un passionné des gorilles. Et là, vous avez eu la chance de voir naître un bébé gorille il y a quelques semaines. Comment s'appelle-t-elle, puisque c'est une femelle?
Donc elle s'appelle Zia.
Zia.
Alors c'est un nom compliqué parce que dès que nous avons eu des naissances de gorilles, nous avons la première naissance, eh bien, il s'appelait Atanga, nous avons commencé par la lettre A, et puis on a suivi, et puis on arrive à la lettre X, car c'est notre 9e naissance de gorilles ici à Saint-Martin, et c'est surtout la 3e génération que nous avons, puisque nous avons les grands-parents, les parents, et la petite Zia qui est née le 22 janvier.
Alors, Le papa de Zia est un gorille qui venait d'un autre parc zoologique, je crois, hollandais, c'est bien
voilà,
cela?
Le papa, Likalé, est né dans un zoo hollandais qui nous a été confié par l'organisation qui s'occupe de la gestion des gorilles, le plan européen d'élevage. Et nous avions fait venir ce mâle, surtout pour le faire vivre avec Digit. Avec Digit, ça s'est mal
Digit,
passé.
Digit, qui est la femelle qui partage...
Notre femelle, notre fille favorite.
Voilà.
Et donc, Digit a mis quelques temps avant d'accepter ce mâle. Et puis un jour, nous les avons vus dans les bras l'un de l'autre et nous étions vraiment très, très heureux. Et puis, au fil du temps, eh bien, ça s'est dégradé parce que ce mâle veut vraiment être un dominant, comme tous les mâles gorilles. Et Digit, qui est une fille un peu particulière et surtout un peu trop protégée par nous, eh bien, n'acceptait pas cette présence de mâle dominant. Et dès qu'elle était embêtée par le mâle, elle faisait signe à Eliane de venir la sortir des pattes de cet affreux gorille.
De ce mâle qui venait l'embêter.
Nous avons commis l'erreur de les séparer. Et depuis, nous ne pouvons plus les remettre ensemble. La dernière fois, ça s'est mal passé. L'Icalé l'a bien bousculé. Elle a été très traumatisée pendant quelques jours. Et nous n'osons plus. Alors bon, voilà, nous sommes pour l'instant un peu...
Alors, il faut préciser peut-être pour la bonne compréhension de nos auditeurs que Digit a été élevé au biberon par vous parce que, au moment de sa naissance, en fait, sa mère ne pouvait pas s'occuper d'elle.
Bien, quand elle est venue au monde, effectivement, alors que Pamela avait déjà vu une autre femelle avoir des bébés, et on pensait que ça allait bien se passer, et puis non, nous avons patienté 3 jours, et je peux vous dire que c'est angoissant de voir un bébé qui pleure, qui a faim, et la maman ne l'allaite jamais. Et un jour, le 3e jour, j'ai demandé à Pamela de me donner son bébé, et elle me l'a donné par la mangeoire qu'on utilise pour les alimenter. Et elle m'a donné ce petit bout de gorille qui pesait à peine 1,5 kg. Et évidemment, eh bien, nous avons commencé la série des biberons. Et voilà. Et comment on arrive à ça ?
D'où cette relation très particulière avec Digit. Voilà. Alors, la naissance de Xia est une jolie opportunité de parler un petit peu de la situation des gorilles en milieu naturel. Cette situation n'est pas très rose, pour le moins que l'on puisse dire.
Mais oui, malheureusement, la destruction de la forêt a toujours lieu. Il y a toujours de plus en plus d'humains, de plus en plus de sociétés qui vont déboiser pour les besoins, y compris des Français, des Européens. Et la population de gorilles, malheureusement, c'est un peu stabilisé. On tourne aux environs de 100 000 gorilles entre le Congo, le Gabon, le Cameroun. Car là, il faut bien préciser, ce sont les gorilles des plaines.
Gorilles des plaines,
voilà.
Oui.
Les gorilles des montagnes, eux, ont une population qui augmente un peu parce qu'ils ont... Le Rwanda les protège énormément et puis ils ont quand même un territoire qui est beaucoup plus petit, il y en a beaucoup moins. Et donc là, ils sont bien préservés. Malheureusement, les gorilles des plaines, eh bien... même si aujourd'hui il y a moins de massacres que par le passé, parce que les gens ont pris conscience qu'il fallait préserver ces animaux, mais malheureusement, avec tout ce que les hommes font pour gagner de l'argent, pour vivre, pour faire des cultures, eh bien tout cela c'est au détriment évidemment de la faune, et que ce soit les gorilles ou les chimpanzés, eh bien ma foi, l'avenir ne peut pas paraître très très réjouissant, même s'il y a quelques une Jonas Final, l'anglais du Soderholtz, a créé des réserves où il y a quelques gorilles qui sont préservés par les humains. Mais pourrons-nous protéger 100 000 gorilles dans la nature ?
Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez de l'EEP, c'est-à-dire le programme européen d'élevage qui a permis la naissance de la petite Xia. Ça démontre quand même l'importance du travail des parcs zoologiques dans la reproduction de ces espèces qui sont menacées dans leur milieu naturel.
Oui, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'espèces menacées disposent d'un plan européen d'élevage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre vétérinaire encore est en réunion avec tous les confrères de France pour parler de tout cela, pour mettre au point des programmes et les faire avancer. Bon, nous avons, par exemple, les cerfs du prince Alfred. Bon, eh bien, nous avons accepté pendant un temps d'avoir des mâles, et puis là, on a une femelle qui va arriver la semaine prochaine, et tout cela pour faire de la reproduction. Car les parcs zoologiques, aujourd'hui, vous savez, moi qui ai 47 ans de parc zoologique derrière moi, eh bien, il faut quand même reconnaître que la situation a bien évolué, parce qu'il y a 20 ans, nous étions simplement, pardon, 40 ans, nous présentions des animaux, souvent dans des installations pas très belles, mais tout cela a bien évolué.
Oui, on n'est plus dans la simple distraction, on est aussi dans la préservation des espèces.
Mais on travaille à la protection, à la reproduction, à faire des échanges comme ça entre parcs, et on accepte, bon, par exemple, nous avons eu des panthères des neiges qui sont nées, nous avons eu des hyènes, et bien tout ça, les programmes d'élevage nous ont demandé de faire partir certains de nos animaux dans d'autres zoos européens.
Très bien, merci infiniment Pierre Thivillon, et j'invite tous nos auditeurs qui passent dans la région de Saint-Étienne à visiter votre parc zoologique à Saint-Martin-la-Plaine, et bravo pour votre engagement en faveur des animaux, puisque je rappelle que vous avez également fondé l'association Tonga, qui vient en aide à de nombreux animaux maltraités ou qui se sont retrouvés dans des situations où ils n'auraient jamais dû être. Merci Pierre, à très bientôt dans cette émission, vous êtes toujours le bienvenu. Petite pause pub et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et donc c'est votre histoire cette semaine, c'est plutôt une triste histoire que nous allons vous raconter. Et en tout cas, c'est aussi la mise en valeur d'un engagement, celui de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Haribert. Bonjour Madame Haribert.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle protection de la nature. Alors, j'ai fait une introduction en parlant de triste histoire. Ce n'est pas bien sûr l'engagement de la LPO qui est triste, mais plutôt ce à quoi la LPO doit faire face de manière régulière, ce sont ces marées noires. Suite au naufrage du navire Grand America, une marée noire est attendue sur les côtes atlantiques ce week-end. On ne sait d'ailleurs pas avec précision à quel endroit la marée noire va arriver sur nos côtes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait que lorsque ça arrive, à chaque fois, c'est une catastrophe écologique et c'est une catastrophe pour les oiseaux. À la LPO, malheureusement, l'histoire vous a appris au sein de cette association à mettre en œuvre tout un dispositif pour venir en aide à ces oiseaux. Ça a démarré quand, au tout début, votre implication de la LPO dans le démazoutage des oiseaux ?
Ça a commencé réellement après le Mococadis, alors pendant le Mococadis, mais aussi après où on a réussi à du coup...
Donc ça date de 1978, c'est pour dire à quel point c'est récurrent dans notre pays.
Voilà, c'est récurrent. Ensuite, on a réussi à mettre en place des centres de soins. Le premier d'entre eux, concernant les oiseaux marins, a été celui de l'île Grande, dans les Côtes d'Armor.
Oui.
Parce que c'est à côté de la réserve des Sept Îles et qu'il y a là une quantité d'oiseaux marins très importante. Et que la Bretagne a toujours été extrêmement sensible aux marées noires. Les plus importantes ont lieu là. Et ensuite, on a mis en place d'autres centres de soins, dont l'un est en Gironde et risque fort d'être appelé à la rescousse dans les jours à venir. Des oiseaux mazoutés sont retrouvés après ce naufrage.
Vous avez également des unités de soins mobiles, je crois.
Oui, alors ce sont, si vous voulez, des sortes de, comment dire, de caravanes, enfin de gros camions, on va dire, qu'on a équipés et qui permettent, selon le lieu d'échouage, d'aller directement sur place pour pouvoir porter secours aux oiseaux mazoutés.
Alors à chaque fois, hein, quand on a une marée noire comme ça, je le disais, c'est une catastrophe vraiment écologique, c'est une catastrophe pour les oiseaux. Il y a des périodes qui sont encore plus critiques que d'autres quand on est en phase de migration. L'histoire nous a démontré que malheureusement, ces marées noires arrivent toujours à des moments un peu compliqués pour la vie de la faune avicole. Comment vous intervenez concrètement avec vos bénévoles? Que faites-vous pour sauver ces oiseaux?
Alors, tout d'abord, on met en place un dispositif de veille. Il est activé, là, maintenant. La veille, ça consiste à parcourir les côtes, et en particulier dans les espaces qui sont protégés, les plus sensibles, là où on accueille le plus d'oiseaux, en fait. Et il y en a un grand nombre en Charente-Maritime.
Oui.
Et là, bon, on examine un petit peu le littoral, on regarde l'arrivée du mazout, et puis on recherche et on décompte, on dénombre les oiseaux retrouvés morts. Et bien entendu, ceux qui ne sont que partiellement mazoutés et vivants, on leur porte secours, on les transporte vers les centres de soins.
Et que faites-vous sur ces oiseaux dans les centres de soins? Comment on leur retire en fait ce mazout, tout simplement?
Alors, il faut beaucoup de précautions pour ça. Hein. Ils sont nettoyés avec soin et ils sont nourris aussi parce que, alors si ça se passe évidemment dans des périodes où il y a une grande quantité, ça devient très difficile parce que le grand nombre est compliqué. Et ils sont alimentés, ils sont tenus au chaud, ils sont et peu à peu, une fois qu'ils sont nettoyés, ils sont réadaptés avant de les laisser s'envoler tout de suite. Il y a une période de réadaptation dans des volières et ensuite ils sont relâchés, ils reprennent leur envol sur les sites où ils ont été retrouvés.
J'imagine que le protocole de nettoyage est bien spécifique et que malheureusement l'histoire vous a appris à mettre en œuvre vraiment un protocole efficace pour arriver à leur retirer le mazout des plumes.
Ah oui, tout à fait. Oui. Mais on a des bénévoles qui sont formés, on a des salariés qui sont formés. Donc ça se fait avec des personnels qui sont à même de le faire, quel que soit le centre de soins, hein, que ce soit dans les nôtres ou dans d'autres centres de soins ailleurs.
Et combien de personnes sont susceptibles d'intervenir sur une marée noire comme celle qu'on attend là?
Bah, écoutez, c'est variable, ça va dépendre de l'ampleur. Là, on ne sait pas où elle va arriver. En réalité, entre les côtes de la Gironde et celle de la Vendée, potentiellement, selon la direction du vent. Et donc, on est en veille. Je dirais quelques dizaines sur, et ça peut aller bien plus loin, sur les Ricards, c'était quand même énormément de monde, parce que là, on était sur, évidemment, une quantité de fioul qui était bien
colossale,
plus importante.
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Là, ça n'a rien à voir, là, hein, quand même.
De l'expérience que vous avez eue des naufrages précédents et des marées noires précédentes, vous citiez justement l'Erika qui a quand même marqué l'histoire de notre pays. Quelle a été l'ampleur de la catastrophe au niveau des oiseaux? Est-ce qu'on a pu estimer le nombre d'oiseaux qui sont morts suite à cette marée noire?
C'était des dizaines de milliers pour l'Erika. Alors, sans compter qu'on ne les retrouve pas tous, bien entendu, parce qu'ils meurent au large. Et on ne les retrouve pas tous au même moment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des arrivées d'oiseaux qui s'étalent un petit peu dans le temps. Donc, voilà. Mais pour les Ricards,
ça veut dire
massif,
que potentiellement, quand...
et rapide. Hein.
Ça veut dire que potentiellement, quand on a une marée noire aussi importante que celle de l'Erika en 99, on peut avoir des populations d'oiseaux qui soient totalement décimées, où on perd vraiment presque la totalité des individus d'une population.
Écoutez, c'est quand même extrêmement rare parce que les oiseaux marins qui sont au large sont pas forcément, pour ceux qui sont les populations les plus petites. Cela dit, ça peut arriver que sur certaines espèces qui sont en très faible nombre et très localisées, la perte soit quasi intégrale. Mais ça n'a pas été le cas hein, pour l'Erika. N'a pas été le cas. C'est impressionnant en nombre. Encore une fois, quand c'est des populations qui sont sur des centaines de milliers d'oiseaux, ça n'a pas un impact dramatique dans le long terme. Alors c'est très impressionnant, bien sûr, hein, dans l'immédiat, c'est vrai.
Oui, et puis en termes effectivement d'images, c'est vrai qu'au moins ce sont des images qui marquent les gens et qui font quand même un petit peu bouger les lignes, parce que depuis ces catastrophes, les choses ont quand même évolué positivement.
Oui, on a les bateaux à double coque maintenant. Là, il y a quand même 20 ans qu'il n'y a pas eu de grosse marée noire. Hein. L'Erika, c'était il y a 20 ans.
Oui.
Voilà, pendant 20 ans, alors il y a eu des plus petits accidents, bien sûr. Hein. Il y a eu le Prestige en 2003. Il y a eu des pollutions ponctuelles, qui n'étaient pas liées à des bateaux d'ailleurs, mais dans l'estuaire de la Loire, avec les fuites dans la centrale de Donge. Mais il n'y a pas eu de grosse marée noire. Celle-ci n'est pas du tout l'équivalent de la marée noire. Ce sont, je crois, un peu moins de 5000 tonnes de fioul.
Donc vous avez même le sentiment qu'on a tiré un peu les leçons du passé et qu'aujourd'hui, la législation qui s'est renforcée, le fait que le principe pollueur-payeur s'applique davantage, tout ça, ça va quand même dans le bon sens pour préserver la nature.
Écoutez, on l'espère. Maintenant, il y a d'autres risques que les marées noires. Hein. Sur ce bateau, il y a aussi des produits chimiques.
Oui. Et le problème, c'est que c'est un risque totalement invisible. Donc, effectivement, on en parle moins, mais le risque est tout aussi important.
Oui, c'est pas la même nature de risque. C'est moins visible. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui s'est passé aussi après l'Erika, c'est que les pollutions sauvages, on va dire le nettoyage... Le dégazage sauvage a été très fortement sanctionné et pénalisé financièrement par les tribunaux en France. Et il y a eu quelques sanctions très importantes et de ce fait, on en voit beaucoup moins.
Donc finalement, quand on touche au porte-monnaie, ça paye. C'est le cas de le dire.
Ça paye.
Très bien, merci beaucoup Madame Haribert pour ces explications. Je rappelle que vous êtes la directrice du pôle protection de la nature de la Ligue de protection des oiseaux et que toutes vos équipes sont à pied d'œuvre justement pour venir en aide aux oiseaux qui pourraient être victimes de cette pollution qui est attendue sur nos côtes françaises. Allez, avec Joël, nous allons terminer avec l'explication d'une expression animalière. Et aujourd'hui, Joël, vous allez nous parler de l'ours mal léché.
Oui, l'expression...
Sans transition avec les oiseaux.
Oui, sans... Bon, mais l'expression telle qu'on l'utilise de nos jours date du 18e, aussi, comme beaucoup d'expressions d'ailleurs. Alors, on a beaucoup raconté que la maman ours, en fait, léchait vraiment longuement ses petits pour les... vraisemblablement pour les nettoyer, les soigner, les présenter ensuite à la naissance. Mais au-delà de ça, il y a une croyance très ancienne qui a circulé longtemps, qui a perduré. On pensait que la maman ours, finalement, elle finissait de donner forme à ses petits en les léchant vigoureusement et longtemps, petits qui étaient censés être nés, pas totalement façonnés, en fait. Et on retrouve des traces de cette croyance-là dans des textes du 7e siècle, dans des encyclopédies du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui font vraiment état de cela. Et puis, on peut trouver aussi une phrase de Rabelais, qui lui-même a écrit « L'ours façonne avec sa langue le petit qu'elle a engendré ». Et bon, La Fontaine, lui, c'est autre chose. Lui, il joue avec l'expression et il parle d'un ours à demi léché. Pour parler de quelqu'un qui était juste, enfin, un ours qui est très sociable, qui préférait rester dans le fond de sa forêt tout seul. Voilà. Et puis là, on a vu l'expression ensuite s'est stabilisée pour désigner ce qu'on sait maintenant, à savoir une personne.
Quelqu'un qui a mauvais tempérament.
Voilà, un peu sociable, grognon, etc. Donc, c'est plutôt l'éducation et la sociabilité qui ne sont qu'ébauchées là et non pas le physique.
Merci infiniment. Voilà, on arrive à la fin de vos animaux. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite bien sûr un excellent week-end et merci à nos amis chats pour leur patience. Ils sont vraiment incroyables. Allez, je vous embrasse. Bon week-end à tous.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.